Voilà, il me semble qu'on a retrouvé nos micros. Donc, sans plus tarder, hein, je laisse la parole donc à Nathalie Rieser qui nous vient du service d'édition multimédia de la Bibliothèque nationale de France et à Annick Pejon qui est responsable du service éducatif des archives nationales. Elles vont vous parler donc d'un site de la BNF en partenariat avec les archives nationales.
Merci. Bonjour. Oui, c'est bon. Tout d'abord, je voudrais m'excuser au nom de Françoise Juel, qui est la responsable du service des éditions multimédia de la BNF et qui a été fortement partie présente dans ce projet et qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous présenter du mieux que je peux ce projet à sa place. Petite pensée pour le monsieur qui regrettait tout à l'heure qu'on ne soit pas plus joyeux. Malheureusement, on va encore parler d'un sujet un peu grave, hein, puisqu'on va parler de laïcité avec ce site. Est né d'un besoin qu'on a pu ressentir auprès des enseignants et également des élèves, ou même souvent d'ailleurs du grand public, suite aux événements du début de l'année, du 7 janvier 2015, qui était donc comment parler en classe surtout, comment échanger sur un sujet aussi complexe et aussi brûlant que la laïcité et tout ce que ça pouvait entraîner, alors que c'était un sujet qui était sous les feux de l'actualité. Donc l'idée menée par un groupe de travail au sein de la BNF et de l'Éducation nationale, donc groupe de travail constitué en premier lieu du service de l'action pédagogique et du service des éditions multimédia, a été de réaliser un site web, mais pas seulement, j'y reviendrai, autour de ces thématiques pour donner des éléments aux enseignants, puiser des éléments, des documents, des ressources puisées dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, je vais y arriver. L'idée étant qu'on ne pouvait absolument pas aborder ce sujet-là sous l'angle de l'actualité, sous peine d'être vraiment dans l'émotion, mais qu'il fallait aider l'enseignant à se faire historien pour mettre en perspective ces problématiques et pouvoir répondre aux questions, aux interrogations, aux angoisses parfois des élèves. Et pouvoir échanger en classe en étant dans l'interrogation, dans la réflexion, et pas dans l'idée toute faite, pas dans l'opinion toute faite, et pas non plus dans la croyance. Donc, comme on se pose beaucoup de questions sur ces questions, le site repose sur des questions. Ça fait beaucoup de questions dans ma phrase, mais vous allez le comprendre. Et on a donc ouvert ce site. Enfin, en tout cas, voilà le principe du site qui a été ouvert à l'occasion de la journée de la laïcité le 9 décembre dernier et que je vais vous présenter dans un second temps. Mais je vais d'abord laisser Annick vous expliquer pourquoi, à l'issue de l'ouverture de ce site, les Archives nationales ont souhaité rejoindre le projet et apporter leur contribution.
Voilà, nous étions. Ça marche, vous m'entendez? Oui. Nous étions donc en fait dans les mêmes réflexions que nos collègues de la BNF et en fait nous l'avons rêvé et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'au moment où nous étions en train effectivement de faire l'inventaire des documents que nous étions en capacité nous aussi de mettre sur le site internet des Archives nationales, l'annonce du portail laïcité a été faite par la BNF. Et c'est vrai que quand on a commencé à explorer ces pages, on les a trouvées extrêmement riches et il nous a semblé beaucoup plus judicieux plutôt que de développer à notre tour un autre dispositif, en fait, de prendre contact avec eux. Et ça nous paraissait d'autant plus légitime qu'un certain nombre, par exemple, de documents de référence qui sont transcrits sur le site, sur le portail de la BNF, ben nous les avions en fait en originaux. D'où un premier travail donc, d'identification, de numérisation de documents pour effectivement les mettre en partage afin de donner aux enseignants donc, la possibilité non pas de se disperser sur plusieurs sites, mais au contraire en fait, de trouver une information qui provenait à la fois de deux institutions, bibliothèques et archives, sur le même lieu avec en même temps en fait, les très très belles pages que vous allez découvrir et que vous nous présentez maintenant, Nathalie.
Oui. Est-ce qu'on peut avoir le retour sur l'écran? Sur le site web, s'il vous plaît. Merci. J'ai juste omis de vous dire, j'étais tellement pressée de laisser la parole à Annick, que le projet est décliné sur deux supports. C'est-à-dire l'idée qu'on avait pu avoir au début, c'était en effet de faire un site web, parce qu'un site web, il va s'adresser à tous. Chacun va pouvoir le consulter en classe, dans la salle des profs, chez lui, etc. Mais on a ressenti le besoin devant ce sujet qui touchait tout le monde et qui touchait particulièrement, je pense, les jeunes qui ont échangé sur ce sujet en classe, de le matérialisé par un support plus physique, à savoir une exposition en affiche qui est téléchargeable sur le site ou qu'on peut se procurer également auprès du référent laïcité de son académie. C'était une manière de faire rentrer ce thème physiquement dans l'école. Donc vous avez en fait deux supports pour un même projet, une exposition en affiche qu'on peut également télécharger sur le site et le site laïcité en question que je vais vous faire découvrir brièvement. Le site rentre dans le cadre des expositions virtuelles de la BNF, donc on le retrouve sur le site des expositions, expositions.bnf.fr. Il est structuré comme la plupart de nos expositions virtuelles. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer peut-être ce qui en fait le cœur et ce qui est le plus accessible en classe, à savoir l'exposition. Il y a toujours des rubriques plus visuelles et d'autres qui sont plus textuelles. Parmi les rubriques les plus visuelles, donc évidemment les plus immédiatement utilisables en classe, l'exposition en images, qui est structuré suivant un principe d'exposition physique, c'est-à-dire imaginez une exposition ici à Beaubourg, vous rentrez dans une exposition, chaque salle est thématique, vous avez un texte d'introduction synthétique qui vous donne l'essentiel sur le sujet, et puis vous approchez des œuvres, vous zoomez enfin avec votre regard, vous regardez une œuvre de plus près, vous lisez son cartel, vous en savez plus, vous approfondissez. Le principe est exactement le même ici. Et pour mettre en application ce que je vous expliquais de l'envie qu'on avait, enfin des principes qu'on voulait pour ce site, à savoir relier le passé et le présent, faire comprendre le présent à la lueur du passé, à la lueur de l'épaisseur des documents anciens, etc. Je prends un exemple qui est sans doute particulièrement douloureux, justement. Bon, donc 10 questions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on se posait beaucoup de questions et qu'on avait structuré ce site en questions. Parmi ces questions, tu es au nom de Dieu, point d'interrogation. Qui va nous permettre d'explorer à travers le temps les occurrences de cette injonction monstrueuse, hein, tuée au nom de Dieu, pour comprendre qu'elle ne date pas d'hier. Donc remonter via les documents, via l'histoire, à d'autres moments où on a prétendu ou pensé ou affirmé tuée au nom de Dieu. Et qu'est-ce que finalement derrière ça cachait ? Le tout pour évidemment revenir au présent. Donc, tuer au nom de Dieu, c'est les chrétiens dans les arènes, les chrétiens persécutés à Rome. Image médiévale ou image plus contemporaine d'un spectacle, image un peu kitsch d'un spectacle. Si, principe systématique de nos expositions, on clique sur l'image, on accède toujours à la fiche de l'image avec un commentaire. Ce commentaire donnant des informations, c'est l'équivalent du cartel, hein, donnant des informations complémentaires qui vont permettre de comprendre ce qu'il y a derrière le propos, derrière tuer au nom de Dieu, par exemple, pourquoi dans une Rome finalement relativement tolérante avec les religions des pays conquis, des peuples conquis, les chrétiens sont apparus à un moment donné comme un danger, on va le découvrir à travers ce texte. Donc est-ce que réellement c'était le fait que les chrétiens aient un autre Dieu qui posait un problème ? Est-ce que c'était le fait qu'ils étaient monothéistes ? Est-ce que c'était le fait qu'ils étaient prosélytes ? Enfin, ça permet de chercher plus loin, de creuser, de ne pas s'arrêter à un discours tout fait. Après la persécution de nos chrétiens, il y a évidemment les croisades. Pourquoi est-ce que les papes ont lancé les croisades ? Est-ce que c'était, enfin, à travers les différentes images toutes de la BNF, mais vous verrez qu'il y en aura également des archives, on va s'interroger sur ce pourquoi des croisades, à quoi elles servaient exactement. Évidemment, les guerres de religion, quand on sait que les princes et les rois n'hésitaient pas à se convertir et à se reconvertir, Henri IV le premier pour accéder au trône, on peut aussi se poser une question sur la religion, sur est-ce que c'est le fait de croire en un dieu ou un autre. Et évidemment, aujourd'hui, est-ce que les attentats, le phénomène de Daesh, est-ce que c'est simplement une histoire de religion ? Et si on poursuit le fil, l'intolérance a une histoire, la tolérance, heureusement, en a une aussi. Et par exemple, ce document-là nous permet de voir que la question de la cohabitation des religions, elle aussi ne date pas d'hier et qu'au siècle des Lumières, puisqu'on est sur un document qui date, enfin en tout cas il a été dessiné par Bernard Picard, un dessinateur graveur, en 1710 de mémoire, cohabitent de façon très harmonieuse, voire très idyllique, les représentants de toutes les religions du monde, de l'islam au catholicisme, à des religions plus exotiques, qui sont censées être celles des Lapons, pour le coup, que vous découvrez là. Donc, ça permet, à partir d'un document pareil, qui a plus de 2 siècles, 3 siècles d'ailleurs, dans 1800, oui, de se demander comment on dessinerait une affiche pareille, une image pareille, représentant différents dieux, différentes religions aujourd'hui. Comment on la recevrait ? Comment on la présenterait ? Et d'un point de vue plus technique, vous remarquerez que la fonction de zoom sur les images de la BNF prend tout son sens sur ce type de gravure où on peut vraiment explorer la totalité du contenu. Et petite parenthèse, mais puisqu'on aura une présentation d'Edutech, si l'enseignant qui consulte ce site est connecté via Edutech, il pourra télécharger cette image-là et les autres, en tout cas de la BNF en haute définition. donc pour lui-même explorer en local cette image dans tous ses détails. Voilà, je voulais vous montrer, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, parce que je voulais vous montrer la mise en application des principes qui ont présidé à la création de ce site à travers cet exemple. Sachez qu'on trouve aussi, si je remonte à l'accueil, des dossiers beaucoup plus textuels pour le coup, retraçant l'histoire de la laïcité, et repris des textes de Pierre Tournemire, vice-président à la Ligue de l'enseignement chargé de la laïcité. On trouve aussi des pistes pédagogiques pour accompagner les enseignants dans leur démarche de conception d'un cours, qui là, je pense, rejoignent ce que j'ai entendu cet après-midi sur la nécessité de découvrir des documents, les explorer, mais ensuite se les approprier par la création. Nos pistes pédagogiques sont toujours construites de cette manière-là, c'est-à-dire découvrir, explorer, réfléchir et créer, imaginer, s'approprier pour fabriquer une affiche, un dessin, une image, écrire un texte, écrire la suite d'un texte, etc. Les textes de référence, Annick en a parlé, anthologie aussi. Juste un chiffre, le site, depuis le 9 décembre, pardon, a reçu plus de 50 000 visites et il aura une V2 lancée, enfin, qui sera un complément de cette version 1, qui sera lancée à la rentrée 2016 en prévision de la journée de la laïcité 2016, du 9 décembre 2016, et pour lequel l'apport des archives nationales, que Annick va vous détailler, sera très important.
Donc en fait, un des aspects également du site, c'est les fameux albums sur lesquels peut-être voilà, justement tu peux nous montrer. Donc nous allons en fait alimenter pour la rentrée prochaine donc un nouvel album qui s'intitule « Dire et représenter la République » qui est fondé en fait sur des documents qui remontent en fait pour les plus anciens à la Révolution française, hein, au moment où on a en fait une symbolique républicaine qui se substitue aux allégories et symboles monarchiques. Au moment aussi où en fait les notions en fait de patrie, nation, république, démocratie sont autant de cadres en fait dans lesquels la notion de laïcité effectivement va se concrétiser. On va également donc en fait pouvoir poursuivre jusqu'à l'instauration de la Troisième République avec cette fois-ci l'adoption effectivement de ces symboles et ces allégories, hein, dont vous avez vu quelques images tout à l'heure également qui passaient juste avant la présentation du portail. Donc là on a vraiment travaillé aussi dans le même esprit, à savoir aller au-devant des enseignants et des classes par le biais effectivement de ce portail et en même temps en fait aussi susciter l'envie, le désir pour des enseignants de venir vers nos institutions. On parlait tout à l'heure de la découverte des documents originaux, et c'est vrai que face à nos élèves qui sont quand même beaucoup abreuvés d'images et d'informations, on le voit aussi particulièrement en ce moment, ça nous paraît d'autant plus important effectivement de revenir en fait aux sources, de revenir aux documents authentiques, originaux, et en fait c'est à chaque fois vérifié dès que nous recevons des scolaires, c'est vrai pour la BNF, c'est vrai également pour les sites d'archives, le nombre de fois où en fait des jeunes gens très jeunes, voire des étudiants comme j'avais hier en charge, et qui soudain en fait s'arrêtent et nous disent mais est-ce que c'est le vrai ? Et c'est vrai qu'en fait ils ont ce besoin d'authenticité, je veux dire face à cette masse d'informations qui leur est donnée, quelque part le document authentique, le document original authentique finalement devient aussi une preuve, il y a une véritable valeur probatoire de l'archive, hein, ou du document qui sont conservés dans nos fonds, et faire venir également ces élèves dans les écrins constituent nos bibliothèques, nos centres d'archives, c'est également aussi très très important. Le débat peut se créer dans la classe, il peut aussi se dérouler sur les sites des bibliothèques, dans les sites d'archives, et là c'est extrêmement précieux. Enfin, voilà, donc rendez-vous hein, pour effectivement la rentrée au mois d'octobre avec ce partenariat que nous sommes vraiment très très contents d'avoir pu concrétiser. Et là vraiment on remercie très fortement la BNF, nos collègues de la BNF pour l'accueil qui nous a été fait, parce que c'est vrai qu'on est arrivé un petit peu, vous savez, comme des coucous qui arrivent en disant voilà, on a aussi des idées et on aimerait bien en fait pouvoir participer à ce travail que vous avez mis en ligne et que nous pouvons effectivement développer davantage encore.
Voilà, et donc il y aura également les textes de référence détenus aux archives, enfin dans les collections des archives, qui seront en lien derrière cette page où pour le moment il y a le texte brut, ce qui est déjà très important, mais ça sera, en effet on aura quand même, à défaut d'être sur place, je pense cette présence du document historique. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation dynamique d'un site tout à fait intéressant. Donc je laisse la parole aussitôt à Aude Renberg et Suzanne Delacote qui vont nous présenter, donc qui viennent de cette bibliothèque, hein, de la bibliothèque de Pompidou et de l'association des Sœurs Lumière, et qui vont nous présenter l'action éducative autour du Festival du cinéma du réel.
Bonjour, donc je suis chargée de gestion et de développement du Festival Cinéma du Réel. Je suis accompagnée par Suzanne Delacote, responsable des séances hors les murs, scolaires et champs sociaux au sein du Festival, et qui fait un travail remarquable chaque année dans ce domaine. Je vous propose pour commencer une petite fiche signalétique du Festival. Donc je vais vous présenter très rapidement. C'est un des principaux festivals internationaux de films documentaires de création dans le monde, qui se tient chaque année durant les 10 derniers jours du mois de mars. Il a été créé il y a 38 ans par la BPI et il est cofinancé depuis 1984 par une association qui s'appelle l'Association des Amis du Cinéma du Réel. Il rassemble chaque année plus de 25 000 spectateurs. C'est un festival compétitif qui présente donc la production internationale la plus récente, mais aussi comporte un important volet rétrospectif et thématique. C'est une manifestation ouverte au public et aux professionnels, puisque nous accueillons chaque année plus de 1 000 accrédités. Donc il se tient au centre Pompidou et dans 4 salles associées du quartier, mais aussi dans une cinquantaine de lieux à Paris, en Île-de-France et en région, car depuis 2006, le festival s'est engagé dans une politique de conquête de nouveaux publics et de développement de la diffusion du cinéma documentaire qu'elle promeut, par le biais de projections donc hors les murs. Nous avons organisé en 2016 80 séances hors les murs dans 50 lieux en France, dont 12 médiathèques. Et de projections également associant du public scolaire et de projections direction des publics issus du champ social. Ceci au croisement de plusieurs axes de travail. Le premier étant de proposer aux jeunes une approche du cinéma documentaire, genre qui généralement n'est pas au cœur des programmes ou des dispositifs d'éducation à l'image. Encourager la réciprocité en ciblant des publics éloignés de ce type de pratique culturelle, mais aussi éloignée géographiquement, pour qui il n'est pas habituel ou naturel de venir au centre Pompidou. Donc nous les touchons par le biais de projections hors les murs et nous essayons aussi de les faire venir in situ au centre Pompidou en petits groupes accompagnés et encadrés. Et cela ne peut se faire qu'en travaillant en réseau avec des associations et des partenaires locaux implantés sur un territoire. On le verra plus particulièrement avec l'exemple que Suzanne développera tout à l'heure. Et enfin, dernier axe, favoriser la découverte du fonctionnement d'un festival culturel en immergeant non par la pratique, mais par la rencontre, par le biais de rencontres avec des professionnels, que ce soit nous-mêmes les organisateurs du festival ou avec les réalisateurs présents pendant le festival. Donc c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce que nous appelons, de ce que nous nommons l'accueil classique de classe pendant le festival, dans le cadre de journées d'immersion. Donc je passe la parole à Suzanne qui va nous expliquer comment ça fonctionne.
Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais juste resituer un petit peu comment fonctionne l'organisation d'un festival. On est sur des temporalités, je pense, très différentes de celles qui ont pu être évoquées précédemment, puisque le festival dure 10 jours, et c'est sensiblement sur ces 10 jours que tout va se passer, ou presque, avec les publics que l'on souhaite faire venir ou vers lesquels on va se rendre. Et en termes de préparation, alors, pour ce qui me concerne personnellement, qui m'occupe à la fois des séances hors les murs et des scolaires, j'ai un temps de préparation de 3 mois. Voilà, j'arrive début janvier et il faut tout mettre en place entre janvier et mars. Donc ça implique des partenariats solides à nouer et à imaginer d'année en année. Disons qu'on amorce les choses une année et elles peuvent se mettre en place l'année suivante ou 2 ans après, ou bien s'appuyer sur des partenaires, puisque c'est quelque chose de très important, des partenaires qui puissent être extrêmement réactifs, en tout cas qui ne soient pas contraints par des calendriers qui empêcheraient toute forme de communication ou d'implication des jeunes. Voilà. Donc ça, c'est une contrainte qui, évidemment, rentre en ligne de compte et qui fait que, de façon assez paradoxale, le festival est organisé par la BPI, mais fonctionne de façon relativement autonome par rapport au travail scolaire et du champ social qui est par ailleurs très développé et mis en place par la BPI. C'est pas un manque de volonté, mais c'est vraiment deux façons de travailler très, très, très différentes. Alors, pour ce qui concerne les scolaires, le festival a commencé à travailler avec des classes de façon assez traditionnelle, en accueillant essentiellement des lycéens au festival, des lycéens et quelques collégiens, tout simplement parce que la programmation n'est pas adaptée à un public plus jeune. Les collégiens, c'est déjà un petit peu limite, il faut pouvoir repérer les films qui puissent convenir à ce type de public. Avec les lycéens, on peut faire davantage de choses. Et donc, la première action qui a été menée par le festival a été de s'appuyer sur les dispositifs d'éducation à l'image existants, et en particulier ce fameux dispositif national qui est lycéens et apprentis au cinéma, pour faire venir des classes qui participaient au dispositif au festival. Et ça représentait, en plus des films qu'ils allaient voir pendant l'année complètement déconnectés du festival, l'occasion de découvrir un événement qui a une partie de découverte du cinéma d'auteur, hein, parce que c'est pas du tout... Alors, le documentaire pour les lycéens, c'est déjà assez vague, et ils confondent très volontiers documentaire et reportage, et la cinématographie documentaire récente, alors là c'est vraiment terra incognita pour eux. Donc c'était l'occasion de découvrir cette cinématographie là et puis aussi de mettre un pied dans un événement qui, à la fois, comme le disait Aude, ouvert au grand public, donc qui avait toute légitimité à les accueillir, mais également qui accueille des professionnels chaque année, et les salles sont remplies de grand public et de professionnels, et les lycéens participent à ces séances-là. Il n'est pas question pour nous, et pour des raisons d'organisation, de disponibilité des salles, mais aussi parce que ça nous semble important, il n'est pas question que les scolaires aient accès uniquement à des séances scolaires. Les lycéens partagent la salle avec tous les autres spectateurs. Et voilà, donc on avait imaginé comme ça des journées d'immersion où les lycéens venaient voir des films documentaires, rencontrer un réalisateur et discuter avec quelqu'un du festival des métiers qu'on pouvait exercer dans le champ cinématographique de documentaire, comment on organise un festival, ce que ça représente en termes de chaînes de production, diffusion, distribution des films. Ça, c'était l'occasion de découvrir tout un pan méconnu pour eux, de professionnels du cinéma. Et puis, au fur et à mesure que le festival s'est déroulé d'année en année, on a développé ces actions d'éducation à l'image avec l'idée de construire des partenariats un petit peu plus élaborés. Alors, pour nous, c'est pas tant comme pour vous tous, hein, c'est pas tant le quantitatif qui compte plutôt que le qualitatif. On est évidemment restreint en termes de moyens, en termes de nombre de séances. Donc on accueille, en 2016, on a accueilli 350 spectateurs scolaires, 350 élèves. Donc vous avez un tableau qui récapitule les classes qu'on a accueillies, qui sont essentiellement des classes franciliennes, donc Paris, mais beaucoup l'Île-de-France. Et quand on dit Île-de-France, certains viennent de loin en Île-de-France. Pour eux, c'est plusieurs heures de transport dans la journée dans le RER, et c'est la première fois pour beaucoup d'entre eux, je dirais la très grande majorité d'entre eux, la première fois qu'ils viennent au Centre Pompidou. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un lieu intimidant, un lieu institutionnel où on a cette culture, pour eux c'est une culture élitiste, et déjà le simple fait qu'ils rentrent à l'intérieur du Centre Pompidou est déjà une aventure. Donc on privilégie les séances au Centre Pompidou quand ils viennent voir une séance dans la journée. C'est pas forcément celles qui ont lieu dans les salles associées autour, mais c'est dans le Centre Pompidou, parce que ça nous semble important de les accueillir ici. Et puis c'est là où c'est vraiment une fourmilière au moment du festival. Donc, on a développé par la suite d'autres façons de travailler en termes d'éducation à l'image et d'éducation au documentaire, en nous appuyant sur des associations, sur des structures existantes. Parce que, comme je vous le disais, et vous l'imaginez bien, c'est très compliqué d'aller prospecter, d'aller mobiliser du public, alors que ce soit au sein des établissements, au sein des centres sociaux. On le fait, hein, mais c'est un travail de fourmi. Ça prend beaucoup de temps. Donc, on privilégie, si vous voulez, des partenariats qui vont faire qu'on va articuler plusieurs projets communs. Et je voudrais vous parler d'un projet qu'on a monté cette année avec le Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui est venu nous rencontrer il y a un an à peu près, parce qu'ils avaient envie de travailler avec nous autour d'une pièce de théâtre qu'il présentait. C'était une création qui avait lieu au TGP, une pièce qui s'intitulait Eichmann à Jérusalem et qui avait été écrite à partir d'archives. Alors, à partir d'archives, c'est-à-dire les archives du procès d'Eichmann, qui, vous le savez, a été filmé et dont on a par ailleurs un certain nombre d'archives écrites, des photographies, des articles de journaux. Bref, toute une documentation extrêmement riche qui a servi de base à l'écriture et à la mise en scène de cette pièce de théâtre. Et on a imaginé tout un parcours à destination de 5 classes réparties sur plusieurs départements, mais essentiellement des classes de Seine-Saint-Denis. Alors, plusieurs classes dans les quartiers prioritaires de la ville. Et puis, je pense à une classe qui était une classe prépa à Saint-Cyr, donc un niveau socio-culturel bien plus élevé, mais avec laquelle il a été très intéressant de travailler sur la problématique du procès d'Eichmann, hein, puisqu'il y avait une vision de l'histoire assez différente du parti pris par les metteurs en scène. Et donc, le projet de cette rencontre entre le TGP et Cinéma du Réel était de travailler, de croiser en fait deux disciplines, le documentaire de création et le théâtre. Alors d'habitude, le théâtre, quand on le croise, c'est plutôt avec la fiction, mais là, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant avec le... Enfin, bon, je pense que vous l'avez déjà compris, parce qu'il y a cette question de l'archive et évidemment la question du point de vue. Et donc, qui est un peu le cœur du travail en documentaire, en cinéma documentaire. Et donc le parcours s'est déroulé de la façon suivante. Un premier temps où on a imaginé, et enfin pas seulement imaginé, où on est allé à la rencontre des lycéens dans leur classe. Donc on s'est déplacé, le TGP et Cinéma du Réel, dans les classes. Et lors de ce premier temps, on a présenté d'une part quelques éléments à partir d'extraits de films faisant partie du patrimoine cinématographique documentaire, donc pour redonner des clés et réinscrire le documentaire dans l'histoire du cinéma, et d'autre part à partir d'extraits de documentaires plus récents et des extraits de films qui allaient être montrés au réel. Donc on a donné des clés de à la fois esthétiques, formelles à ces élèves. Donc il a été question de mise en scène cinématographique, de comment s'exprime un point de vue, comment on peut utiliser des images d'archives dans le documentaire, quels sont les différents usages qu'on peut en faire, qui s'exprime dans un documentaire, qu'est-ce qu'une voix off, comment le cinéaste peut s'impliquer ou se mettre en retrait par rapport à son propos. Et dans le même temps, le TGP a lui mis l'accent sur la mise en scène qui, sans être cinématographique, la mise en scène d'Eichmann à Jérusalem s'inspirait ou réemployait ce qu'on pouvait retrouver dans le cinéma documentaire. Parce que la pièce travaillait de façon fondamentale la question du point de vue. Le procès d'Eichmann dans la pièce n'était absolument pas une reconstitution, mais plutôt une sorte d'éclatement des points de vue sur ce procès qui a constitué un moment extrêmement important et fondateur dans l'après Seconde Guerre mondiale. Et les acteurs jouaient à tour de rôle des rôles différents. Voilà, donc il y avait cette question du point de vue qui était central. Deuxième temps, les élèves sont venus au festival, ont vu un film de la compétition. Donc ça a été pour eux l'occasion de découvrir le festival. On a parlé de questions de production, de distribution, de diffusion de cinéma documentaire. Donc là, cette fois-ci, une approche moins théorique, mais vraiment ancrée dans les conditions de fabrication et de diffusion des films. Et troisième temps, la vision de la pièce au TGP. Voilà, donc c'était une circulation qui nous a semblé intéressante, pas pour croiser les disciplines de façon artificielle, mais vraiment parce que là, ça faisait sens. Voilà, on va s'arrêter là, mais je voudrais simplement terminer, parce que c'est évidemment très court, pour vous restituer un peu le travail qu'on fait. C'est un petit exemple, mais je voudrais terminer sur cette question qui, moi, me semble absolument fondamentale. Quand on parle d'éducation à l'image, en France, on a un statut un peu particulier par rapport au reste de l'Europe. En France, l'éducation nationale, le ministère de la Culture mettent vraiment l'accent sur le cinéma en tant qu'art. Dans les autres pays européens, l'éducation à l'image est liée à l'éducation aux médias. Bon, c'est deux optiques différentes, on ne va pas rentrer dans le débat. Quand nous, on intervient auprès du jeune public, dans le cadre de nos actions, il nous semble important, évidemment, de restituer cette dimension artistique. Le Festival Cinéma du Réel, c'est ça. Mais c'est aussi important de resituer les œuvres dans leur contexte de création et de diffusion, et d'inscrire également un point de vue politique, parce que les documentaristes en général, ceux qui viennent à Cinéma du Réel, sont des documentaristes qui ont une posture politique assez forte. Et je ne voudrais pas, moi, déconnecter le cinéma documentaire, dire que c'est une œuvre d'art, certes ancrée dans le réel, mais je ne voudrais ni le déconnecter de ses conditions de fabrication, ni de la posture politique que cela implique, puisqu'il était question tout à l'heure, non seulement d'éducation, de pédagogie, mais de constitution des citoyens. Voilà, donc on essaye de le faire dans un temps très court, mais on essaye d'allier ces différentes approches. Merci.
Voilà, donc une toute dernière parole pour Alain Tillet, qui a la malchance de clore ce programme très riche et donc d'avoir très peu de temps pour nous présenter un portail numérique dédié donc à des ressources culturelles. Il dirige le département du développement et de la diffusion des ressources numériques au ministère de l'Éducation nationale. Donc nous terminerons vers 17h15, c'est ce qui m'avait été donné, et il nous faut 45 minutes à peu près pour rejoindre Pierre Fitte.
Bien, merci. Je vais faire une présentation la plus courte possible, même si il vous suffirait d'aller sur edutech.fr pour aller naviguer et voir toute la richesse de l'offre qui est proposée en partenariat et en réseau avec aujourd'hui 25 partenaires de la culture, des sciences, car effectivement, EduTech, certes, n'est pas un site d'éducation artistique et culturelle en soi. Il est bien plus que cela, vous allez le voir avec les partenaires qui sont dedans, mais on y trouve beaucoup pour l'éducation artistique et culturelle. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre Dupont de la DGESCO, nous sommes en relation fréquente pour ces animations. Et je tiens à remercier le Centre Pompidou et les organisateurs pour cette invitation. D'ailleurs, petit clin d'œil, puisque nous sommes partenaires avec le Centre Pompidou de Mon Œil, la web-série documentaire mise à disposition des enseignants et de leurs élèves. Alors, qu'est-ce que c'est qu'EduTech ? EduTech, en fait, c'est un partenariat avec l'ensemble des institutions qui s'affichent pour le moment sur votre écran, donc aussi bien l'IGN et son portail EduGéo. En tant que grand public, vous connaissez Géoportail, mais vous ne connaissez pas EduGéo, qui comporte bien davantage, avec des orthophotographies et des cartes anciennes et la possibilité de travailler. Et donc, par exemple, pour ce que j'ai vu dans différentes prestations cet après-midi, la possibilité effectivement d'incorporer des liens, d'incorporer des images, d'embedder, on va dire, sur les cartes un certain nombre d'éléments qui pourraient répondre à vos besoins d'institutions culturelles, plutôt peut-être qu'un certain nombre de géolocalisations avec une API Google, comme on le voit assez fréquemment. Le message est passé et invitation à tout le monde. Donc il y a ici, dans le principe c'est lequel ? Le principe c'est effectivement chercher et identifier, sélectionner des ressources numériques pour enseigner. Pour enseigner, c'est-à-dire en lien direct avec les référentiels, donc connaissances et compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc c'est de pouvoir effectivement voir, lire, commenter, mais jusque-là tout va très bien et c'est assez facile à faire. Et puis c'est surtout utiliser, réutiliser, agréger, écrire, composer, publier, partager. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots et vous dire qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'a pas entendu, si ce n'est avec notre partenaire de la BNF, puisque avec tous ces partenaires, nous avons, je dirais, un accord, puisque c'est en accès réservé pour les enseignants sur leur adresse professionnelle pour le moment. Aujourd'hui, plus de 100 000 enseignants abonnés directement volontairement, qui eux-mêmes ont plus de 12 000 classes associées. Autrement dit, un enseignant, ça peut aller de l'enseignant de français à les trois classes, 75 élèves au mieux, à l'enseignant de musique qui a tous les élèves du collège, par exemple. Donc automatiquement, le terme de compte classe, vous imaginez bien que ça démultiplie ici le nombre d'utilisateurs potentiels. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ? C'est un choix, une offre structurée. Des documents, certes par champ disciplinaire, par champ thématique, indexés selon des grandes catégories, arts et lettres, culture et langue, sciences humaines et sociales, etc., un certain nombre de dossiers, et des ressources de différentes natures. Ça va du texte, de l'image que l'on a vu tout à l'heure et qui est téléchargeable, à un certain nombre de services associés. Quand je pense, et je salue Sophie Bachmann de l'INA dans la salle, ça peut aller jusqu'à effectivement les 1600 ou 1700 vidéos de jalon de l'INA pour lesquelles il y a un appareil documentaire éditorialisé très court de contexte et d'éclairage média, donc effectivement pour cette éducation aux médias en même temps, et puis un appareil qui permet de synchroniser sur la lecture, enfin des choses très pratiques pour l'enseignant qui n'a pas forcément beaucoup de temps dans la manipulation, en tout cas des matériels. Pour ce qui est de l'utilisation joyeuse, monsieur, je vous invite à regarder particulièrement la petite vidéo d'EduTech dans le premier degré. Donc ça, vous y avez accès sur le site, puisque vous n'accéderez pas à l'offre, puisque vous n'avez pas nécessairement donc d'adresse académique pour ce faire, mais avec les jeunes gens de CM2 qui ont utilisé à la fois, dans une démarche active assez simple, qui ont utilisé les sites de la RMN Panorama de l'Art, le site de la BNF et le site de la Cité de l'Architecture et en particulier l'animation Archimome qui est un vrai bijou, je dirais. Voilà. Alors, on s'inscrit, effectivement, vous voyez, adresse professionnelle, accès réservé parce que les ressources sont hébergées chez chacun des partenaires et que nous travaillons en réseau, l'authentification est assurée par l'éducation nationale et du coup, effectivement, avec les conditions générales d'utilisation du portail que nous avons négocié avec l'ensemble des partenaires, les mêmes conditions pour tout le monde, il y a en gros l'idée que je vais pouvoir récupérer un certain nombre de ces documents pour pouvoir composer mes propres documents lorsque je suis enseignant, les partager avec mes élèves, faire travailler mes élèves dessus. Par contre, je ne peux pas publier ces documents en dehors des espaces numériques de travail dont il a été question, des espaces en fait de l'éducation nationale, puisque bien entendu, il n'y a pas de cession de droits infinie et de dissémination. Les partenaires étaient très inquiets au début, EduTech a 2 ans et demi maintenant, et effectivement, je dirais, il n'y a ni de téléchargement abusif, ni et tout n'est pas en téléchargement hein, d'ailleurs, on peut le dire également, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des ressources, je dirais, un seul identifiant, un seul mot de passe, j'accède à une offre dédiée de l'ensemble des partenaires. Donc c'est-à-dire que je ne me réauthentifie pas, je passe des uns aux autres sur leurs espaces dédiés et je vais pouvoir soit avoir une action, on va dire, selon mon projet pédagogique, selon ce que je veux faire avec les élèves que j'ai, avec les niveaux dans lesquels je travaille. Je vais pouvoir soit effectivement utiliser les ressources d'un seul partenaire, soit au contraire les inviter à croiser les ressources et donc à réfléchir sur les sources et donc à citer ces sources. Je reviens également, il y a même dans les conseils pratiques pour les enseignants une consigne qui est tout ce qui est à citer une fois qu'on publie, c'est par exemple BNF via EduTech, RMN via EduTech, etc. Donc ce travail-là, je vous rassure qu'il est fait et qu'on y est très sensible. Ça donne quoi ? Ça donne des scénarios pédagogiques d'utilisation et ceux-là sont spécifiquement tagués sur le portail pour mettre en valeur l'offre des partenaires. Par exemple, le Paris-Babel, Babiel à l'Expo, utilisé donc dans l'académie de Versailles, est une invitation, une mise en voie sur l'utilisation de différentes archives et de différentes ressources. C'est un petit film monté par les enseignants et les élèves, surtout. Donc, c'est une production multimédia des élèves avec des ressources d'EduTech. On accompagne EduTech, et là par contre vous pourrez aller voir toutes les suggestions possibles sur le site d'EduSchool en allant tout simplement sur l'onglet enseigner avec le numérique, ressources numériques pour l'école, et donc là on a une entrée EduTech. Pour la préparation des nouveaux programmes donc à la rentrée prochaine, nous avons, vous le voyez, soit par des programmes de lettres, soit par des thématiques, comme par exemple, on va le voir, ressources EduTech sur la découverte et la représentation de l'ailleurs, qui permet effectivement de montrer comment on peut croiser un certain nombre de ressources. On a également donc en accompagnement, donc j'ai dit scénario pédagogique produit en académie qui remonte sur les sites du ministère de l'Éducation nationale. Accompagnement, je dirais, par de l'information en continu sur le site d'EduTech et sur le site EduSchool des professionnels de l'éducation. Parcours magistère dont il a été question tout à l'heure, parcours magistère en auto-inscription pour l'ensemble des enseignants, et vous le voyez avec, sur le côté, l'ensemble de la mise à disposition des parcours proposés, ce que l'on peut faire, comment il faut s'y prendre, qu'est-ce que l'on peut réaliser avec l'ensemble des ressources des partenaires à caractère scientifique et culturel. Alors, les partenariats, voilà EduTech il y a 2 ans. Voilà EduTech l'an passé, voilà EduTech cette année, mais je vous indiquais que nous avions décidé de ne pas aller au-delà d'une quarantaine de partenaires, tout simplement pour des questions à la fois de gestion et des questions de respect des articulations entre ce qui se passe sur le terrain en académie et au niveau des préacs, au niveau de tout ce qui peut se passer. On a d'ailleurs eu une forte discussion avec l'ESG de la culture, et encore que les choses peuvent peut-être bouger un petit peu, sur la complémentarité de ce portail, bien entendu, et de ce moyen d'accès avec l'autre portail du ministère de la Culture, d'Histoire des Arts, puisque nous ne sommes pas sur la même logique exactement, même si l'ESG de la Culture, je ne sais pas si Naomi ou si Marion Martin Laprade sont là cet après-midi, nous propose éventuellement d'avoir une entrée Histoire des Arts, du portail Histoire des Arts, pour EduTech, qui serait en fait un moyen de faire des ponts plus intéressants. Alors EduTech, une réponse aux défis pour les archives et les bibliothèques, ça c'est un petit clin d'œil, puisque nous avons eu des rencontres il y a peu de temps, et après des rencontres il y a longtemps, on va dire il y a 4 ans à l'UNESCO, au moment où on réfléchissait à tout cela. Bien entendu, vous dire qu'on va accueillir tous les établissements, ce n'est pas le cas, je vous ai dit, on est sur une mise à disposition de ressources pour les enseignants et les élèves, je dirais, qui recoupe les grandes images qu'on a vues tout à l'heure. J'ai vu le portrait d'Hyacinthe Rigaud de Louis XIV, bien entendu, c'est un grand classique, c'est une des images les plus téléchargées parce que les plus utilisées. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si la France a cédé cette image dans le cadre des 10 œuvres du patrimoine, cédées dans le cadre de Europeana 280, donc les 28 partenaires, 10 images par partenaire, et donc un site avec une libération des droits sur ces images. Archives nationales, autour des expositions, bien sûr, on regarde ce qu'il y a sur les sites des uns et des autres. Archives nationales, dans la BNF, la laïcité, bien sûr, à nous de voir ensemble comment, et de ne pas multiplier, effectivement, comme vous le disiez, les entrées, mais archives également nationales de l'outre-mer, expositions virtuelles. Mais oui, on fonctionne, vous avez bien vu que les expos virtuelles de classe BNF accueillent les expos virtuelles, accueillent Gallica. Enfin, avec la BNF, on a déjà un long vécu, on va dire, qui permet effectivement de mettre à disposition une bonne partie de ressources pour des actions pédagogiques, pour une utilisation et une réutilisation pédagogique dans un cadre de confiance numérique. Action culturelle donc de l'ANOM, Archives d'Outre-mer, bien sûr, et notamment, je veux dire, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, les données sur Dreyfus, je les ai utilisées il y a un long moment déjà. Par contre, voilà, le clin d'œil s'arrête derrière lorsqu'on regarde et qu'on voit dossier et publication. Alors, je fais exprès, hein, vous, bien entendu, c'est un... les PDF... nous ne sommes plus dans un simple mise à disposition de PDF. Si c'est pour avoir une liseuse, je dirais, on peut le faire avec du papier, il n'y a aucun problème. On continue à savoir le faire, je dirais, aussi. Par conséquent, il y a à réfléchir sur ce qui peut être mis à disposition et comment. Et là, du coup, effectivement, il y a certainement à creuser des pistes, d'autant plus que vous organisez des expositions, d'autant plus que vous numérisez un certain nombre de choses. Voilà, il y a certainement à réfléchir à ce qui peut être fait. Et puis, dans le cadre de l'année des Outre-mer, bien entendu, je suis fort Marie lorsque je lis, comme vous, que... toute diffusion et contenu sous quelque forme que ce soit ou sous quelque support que ce soit de ce site pour quelque finalité que ce soit est jolie, pédagogique, scientifique, alors commercial, je comprends, les deux premières effectivement me posent problème. Donc c'est ce travail-là de confiance entre éducation nationale et culture et autres institutions qui sont à travailler. Sinon, vous savez comme moi que nos élèves, dans les compétences numériques qu'ils ont, ils sont capables d'avoir des compétences qui s'accommodent également d'une utilisation qui n'est pas toujours aussi légale que nous le souhaiterions. Nos enseignants aussi, parfois. Donc, on est sensible à tout cela, parce que, bien entendu, c'est un écosystème complet. On ne doit pas rougir, d'ailleurs, au niveau de l'Europe. Je ne cesse, depuis un certain temps maintenant, depuis que EduTech est bien ancré du côté de l'éducation nationale, d'aller présenter cela, et je le ferai encore à la demande de la présidence néerlandaise de l'Union, lors du rapport final de la fin de la présidence en juin prochain. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui, 850 000 enseignants, 12 millions d'élèves, à l'échelle de l'Europe, une offre de qualité telle que celle que vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut soigner et qui n'existe pas à cette échelle-là. Il y a des villes, il y a des musées et des fondations, vous les connaissez toutes. La seule grande fondation, je vais le dire comme cela, dans Europeana, et je le dis assez fréquemment à mes partenaires de ce côté-là, en dehors du Rijksmuseum, il y a quand même assez peu, on va dire. Et il y a, bien sûr, il y a l'INA, il y a la BNF, mais il y a assez peu par rapport à ce que nous libérons à des fins pédagogiques, à des fins d'éducation scolaire. Je n'ai pas dit qu'il fallait aller au-delà, et pour l'instant, je vais un tout petit peu plus loin que le simple droit de citation, puisque vous savez bien qu'un extrait musical de 30 secondes, un extrait de pourcentage de livres, on va dire, ou un morceau d'image, ça non, on s'en sort encore à peu près. Tous ces extraits-là, ça ne fait pas le projet pédagogique, et je ne vous ferai pas l'injure de ne pas comprendre ce que je veux dire par là. Les partenariats, bien entendu, nous les soutenons et nous communiquons beaucoup sur ces partenariats. Nous demandons à nos partenaires aussi de participer à cela. Quelques exemples ici, tant sur Educatis et avec les partenaires que sur les réseaux sociaux, que les présentations, effectivement. Et nous avons la chance d'être avec cette action dans l'une des actions phares du plan numérique pour l'école et de disposer, bien entendu, actuellement du soutien de notre ministre sur ce sujet. Je vous remercie.
Voilà, un grand merci aux intervenants qui ont montré leur capacité à s'adapter aux contraintes horaires. Un dernier mot, j'espère que le cadre réglementaire qui a été proposé plus tôt, hein, qui a été évoqué plus tôt, n'est pas compris comme un emprisonnement, mais bel et bien comme enfin la reconnaissance de l'éducation à laquelle nous croyons, hein, qui est faite. Alors, de plaisir peut-être, mais en tout cas de sensible, de pratique, d'implication, de créativité et d'authenticité. Voilà, l'école a besoin, je crois, de se remettre en cause régulièrement et j'émettrai le vœu que certaines représentations n'empêchent pas cette remise en cause tout à fait nécessaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Tout petit mot pour terminer, donc remercier Bérangère pour l'animation de cette séance, remercier l'ensemble des intervenants de la journée au nom de la BPI, vous remercier pour votre attention et ainsi que remercier notre équipe technique pour toute la régie de cette journée. Donc pour ce soir, ceux qui participent à la représentation de l'Opéra Kit, donc ça se passe aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Pardon, il faut environ 45 minutes pour rejoindre le site. Ne tardez pas trop parce qu'il y a un contrôle Vigipirate à l'entrée, donc vous serez bien dans les temps. Il y a une petite brochure d'information, à la fois pour ceux qui y vont pour lire dans le métro et pour ceux qui n'y vont pas pour savoir ce qu'ils ratent. Pour les non-parisiens, c'est donc la ligne 13 à l'arrêt Saint-Denis-Université. Faites attention, il y a deux branches à la ligne 13 vers le nord. Il faut bien prendre la direction Saint-Denis-Université et c'est le terminus. Demain, donc, nous passons le relais aux Archives nationales, toujours à Pierrefitte, au même endroit. L'accueil est à 8h30, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport au programme, pour un début des interventions à 9h. Merci à tous, bonne fin de journée.